Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondé. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Voilà, nous démarrons cette émission avec, nous parlons du harcèlement sexuel. Certaines femmes font l'objet, font parfois objet d'harcèlement sexuel en milieu professionnel. Généralement, elles se plaignent auprès des tierces personnes ou encore abandonnent carrément le travail. Alors, à quel moment peut-on parler d'un harcèlement sexuel et que prévoit la loi congolaise à ce sujet? On en parle avec Joséphine Ngalula qui intervient à partir de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Madame Joséphine, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous êtes coordinatrice du réseau Action Femmes, RAF en sigle. Qu'est-ce qu'on entend par harcèlement sexuel?
Bien, la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais,
oui.
Article 3, la section 3 du titre 6 du code pénal, livre 2, est ainsi modifiée. Section 3, des auteurs des autres infractions de violences sexuelles. Paragraphe 4, du harcèlement sexuel. Article 174 D. Quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais.
Donc on peut dire oui. Alors Madame Joséphine.
Là,
Madame Joséphine. Oui, alors on peut
dire... à la subordination, excusez-moi, de la plainte de la victime. Voilà un peu. L'harcèlement sexuel, ce sont des faveurs qu'on obtient dans une relation entre celui qui a le pouvoir et celui qui est subordonné à ses pouvoirs.
Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des témoignages des femmes victimes d'harcèlement?
Si, on en a déjà eu.
Oui.
Nous avons eu, par exemple, dans notre clinique juridique du réseau Action Femmes RAF, la plainte d'une étudiante qui était victime de harcèlement sexuel de la part de son directeur de mémoire.
Oui.
Et les directeurs de mémoire voulaient obtenir des faveurs sexuelles seulement parce que il encadrait la jeune étudiante. Et nous avons mené des actions en justice. Nous l'avons confié à notre avocate qui a porté l'affaire en justice. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu, bien des causes à la fin. Et il s'était posé des vrais problèmes de preuve. Et le directeur de mémoire était nanti. Il a obstrué le cours normal de la procédure.
Oui.
Et il a nié des faits et les problèmes de l'administration de preuve, malgré que l'article 14, à titre dérogatoire en matière d'infractions relatives aux violences sexuelles,
oui.
les règles sont quand même observées, entre autres l'administration de la preuve, et il a fait fi les juges qui avaient les dossiers. Voilà un peu, ça c'est un cas. Nous avons aussi reçu un cas d'une dame qui était victime d'harcèlement sexuel de la part d'une autorité de la place. Et la dame est venue se plaindre et nous avons eu beaucoup de difficultés pour faire avancer ces dossiers, toujours au nom de l'administration de preuves, Et pourtant, la loi dispose de l'article que je viens de lire tout à l'heure. Voilà un peu.
Voilà, mais pour ces genres de situations, même à l'université, on parle des points sexuellement transmissibles. Mais pour ces genres de situations, comme vous venez de le dire, l'administration des preuves, ça reste un problème. Comment prouver qu'il y a eu effectivement un harcèlement sexuel?
Parce que la personne qui vient se plaindre de cette situation, c'est la personne qui se sent lésée.
Oui.
Il est blessé dans son fort intérieur. Le fait de déclarer que je suis victime d'harcèlement, je crois qu'on peut croire à cette personne-là. Parce que ce sont des paroles. Quand j'ai expliqué l'harcèlement sexuel, on a bien vu en proférant des menaces, disons, ces comportements peuvent se traduire par des paroles, des gestes, des ordres ou des menaces, tout ça. Donc ce sont des histoires qui ne sont ni écrites quelque part, qui ne sont ni écrites quelque part, mais ce sont des paroles, ce sont des gestes. Comment prouver les gestes?
C'est ça la
grande
difficulté.
Par rapport à la personne qui se plaint, qui se trouve dans une situation délicate et demande le secours de la justice. Et la preuve par témoin ou la preuve par écrit ou bien ça se complique un peu, mais en cette matière, puisque notre loi reconnaît cette difficulté des preuves, on a disposé à l'article 14 de la loi, disons modifiant de la procédure, la loi numéro 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets d'ici août 59 portant code de procédure pénale congolais. On a quand même fait remarquer cet état des choses. Moi, je crois que en ce qui concerne la preuve lorsqu'il y a harcèlement sexuel, le fait de la victime de déclarer, de décrire les circonstances peuvent être considérés comme éléments de preuve. Voilà un peu.
Mais madame, une victime peut aussi faire du chantage. Elle peut faire mentir tout simplement pour faire chanter une autorité ou une autre personne.
Oui, cela peut être vrai. Mais seulement, nous pouvons nous dire que une personne normale ne peut pas accepter de faire les chantages pour les plaisirs et les mensonges finissent toujours par être dévoilés.
Oui.
Et nous, les cas que nous avons eu à traiter dans notre clinique juridique, nous avons établi en fin de compte que les victimes qui sont venues se plaindre chez nous n'avaient aucune intention de faire les chantages, mais au contraire, ils souffraient dans leur fort intérieur de peur de perdre leur
emploi,
l'autre de perdre son emploi et l'autre d'être mal coté. Et là, nous avons demandé, finalement, nous avons mené même une action à l'université pour obtenir qu'on puisse changer de directeur et que la fille puisse travailler avec un autre directeur de mémoire.
Oui, et c'est là
voilà
un
peu la situation. Et les personnes qui utilisent l'harcèlement sexuel pour faire les chantages, ben, elles peuvent être comptées parmi nous, mais moi je donne ma langue au chat pour dire que ce sont des cas très très rares.
Oui.
Les personnes qui viennent se plaindre vraiment sont celles qui ont des vrais problèmes et qui cherchent une solution. Il y a aussi une femme d'entreprise à l'époque qui est venue aussi, nous avons été saisies, elle était même giflée, mais elle avait très peur de perdre son emploi.
Elle était giflée par son patron.
Le problème est arrivé au niveau de la justice, elle s'est rébiffée sous menace de l'auteur qui a brandi, disons, la révocation. Vous comprenez que c'est un problème très délicat.
Oui.
Les chantages, ce sont des cas très rares, mais souvent, ce sont des cas réels. Voilà un peu.
Voilà, vous avez des questions, des réactions, composez le 081-890-6394. Madame Joséphine Ngalula, coordinatrice du réseau Action Femmes, intervient depuis Mbandaka pour parler de l'harcèlement sexuel. Nous avons déjà en ligne Papi Kawa depuis Kolwezi. On les retrouve juste après ceci.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Papy Service.
Papy Kawa, bonjour.
Bonjour, c'est Papy Kaya, pas Papy Kawa.
Papy Kaya, merci. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, c'est Papy Kaya, pas Papy Kawa.
Oui, allez-y, Papy Kaya. On a corrigé.
Merci beaucoup, j'ai suivi le point de vue de madame.
Oui.
C'est intéressant, mais moi, mon problème était que, parce que même si ma petite sœur a été menacée comme ça une fois au travail, au boulot, j'ai pu traduire ce monsieur en justice.
Voilà, merci pour la question, madame Joséphine.
Oui, le monsieur a été traduit en justice. Concernant les dossiers relatifs à, au travail de fin d'études de l'étudiante.
Non, madame, mais... Papy Kaya parle de son cas précis. Hein. Si, par exemple, il y a un monsieur qui harcèle sa petite sœur, alors est-ce que lui, Papy Kaya, peut le traduire en justice?
Oui, pourquoi pas. Il peut le faire.
Il peut le faire.
Oui, il peut le faire.
Mais le problème des preuves va toujours revenir. Hein. La difficulté de fournir des preuves, c'est là peut-être où va se poser le problème.
Oui, justement, c'est pourquoi la loi est claire, non? J'ai bien dit que c'est maintenant le problème d'appliquer la loi dans son intégralité par rapport à l'administration de preuves en ce qui concerne les infractions relatives aux violences sexuelles. Il y a les règles qui sont là. Il y a l'article 14, titre 14, oui, qui dit à titre des dérogatoires en matière d'infractions relatives aux violences sexuelles, les règles suivantes s'appliquent pour l'administration de la preuve.
Oui.
Et on a cité des points, quatre points, je vois là tout ça. Et je crois que les juges doivent tenir compte de cet élément parce qu'il y a un vrai problème par rapport au harcèlement sexuel. Et le fait que la personne se plaint et insiste, il y a moyen de sentir dans la personne que c'est vrai, cette personne est réellement victime. Est réellement victime et on doit traiter avec célérité ces dossiers comme les prévoit notre loi qui modifie notre code de procédure pénale d'ici août 59.
Oui. Hein?
Je crois que cela est clair, sans préjudice des dispositions légales relatives à la procédure de flagrance, l'enquête préliminaire en matière de violences sexuelles, c'est fait dans un délai d'un mois maximum. Donc il y a une célérité qui est réservée par rapport à cette matière tellement délicate.
Oui.
Et pour l'administration des preuves, on s'en remet aussi à la loi qui reconnaît qu'il y a un vrai problème par rapport à l'administration des preuves.
Alors, Madame Joséphine, que peuvent être les conséquences de l'abus d'autorité en matière sexuelle sur la victime? Qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence?
Ça peut affaiblir les rendements de la victime qui se sent gênée parce que quand vous avez un problème d'harcèlement sexuel, vous avez un choc psychologique et ça entraîne vraiment, une réduction de rendement.
Oui.
On ne se sent plus à l'aise pour pouvoir travailler comme par le passé. Ben, on se dit que tout peut arriver à tout moment. Et là, on ne donne plus les meilleurs de soi-même. Ça, c'est un fait.
Oui.
Et quand on ne donne plus les meilleurs de soi-même, on ne fait plus le travail comme il se doit. Et ça, c'est par rapport à l'emploi, par rapport à la personne victime, menacée par l'harcèlement sexuel. La personne se sent diminuée, sa psychologie est atteinte et la personne développe un comportement inhabituel. Et là, ce trouble de comportement peut même entraîner, une difficulté dans sa vie quotidienne, même en famille, pourquoi pas.
Mm-hmm.
Et tout ça, ça peut même pousser... la personne qui est menacée à démissionner et à perdre son emploi et l'entreprise peut perdre peut-être un élément important qui était doué et capable de donner dans ce domaine précis là beaucoup de services intéressants à la nation et c'est une perte pour la nation par rapport à l'apport de chacun de nous au développement, voilà un peu.
Oui, Christian Goy nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Christian. Quelle est votre question?
Bon, je pose d'abord aux madames. Hein. Je crois, nous, les garçons, vraiment, nous sommes aussi pris par ce genre de conséquences. Alors, quelle la loi dit peut-être par rapport au sens contraire, s'il vous plaît? Si peut-être c'est une majeure qui sait à propos d'un mineur, un garçon mineur.
Voilà. Madame, vous avez suivi la question. Les garçons aussi peuvent être victimes d'harcèlement.
Bien sûr. La loi sur les violences sexuelles, cette loi est valable pour les hommes ainsi que pour les femmes et pour les enfants. C'est pour tous les humains. C'est pas une loi qui... C'est une loi générale, n'est-ce pas, qui protège... les êtres humains, sans exception, sans différence de sexe ni d'âge.
Oui.
Et tout le monde peut se prévaloir de cette loi concernant les garçons qui sont harcelés par les femmes majeures. Et ils peuvent utiliser cette loi, ils peuvent recourir à cette loi pour porter plainte. Et la justice fera son travail et comme il se doit si seulement si les garçons menacés ou victimes, c'est plein. Donc, qui se sent à l'aise, les garçons, qui se sentent à l'aise, parce que cette loi n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour tous les humains.
Voilà, c'est pour tous les humains. Madame Joséphine, comment alors, mais je pense qu'on peut faire la prévention, comment prévenir les harcèlements sexuels dans les différentes entreprises, dans les milieux professionnels, et c'est possible de faire de la prévention?
Vraiment, là, vous posez une question qui touche... à ma mission à Guémena, à Mbandaka, je suis venue faire la prévention dans la lutte contre les violences sexuelles et les VIH-SIDA. Nous avons réfléchi, là c'est dans les cadres de mon ONG des bases, parce que je suis présidente de l'ONG Forum de la Femme Ménagère.
Oui.
C'est à ce titre que je suis ici à Mbandaka, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour le Développement de la Femme, UNIFEM, et où je suis en train de mener les actions dans la prévention, justement, étant donné que l'harcèlement sexuel est l'une des infractions retenues dans les cadres de violences sexuelles. Nous disons que le grand travail doit se faire au niveau d'abord de la sensibilisation, que les responsables, que tout le monde sache que l'harcèlement sexuel a des conséquences néfastes sur le travail et sur la santé de la personne qui est menacée, sur la santé mentale. Et aussi, nous devons prévenir ça, non seulement par la sensibilisation, c'est un des mécanismes, ou bien des stratégies, aussi par les plaidoyers. Nous devons rencontrer les personnes qui ont un certain pouvoir, afin de pouvoir leur expliquer que la loi est là, et nous devons vulgariser aussi la loi, parce que beaucoup ignorent encore la loi et ceux qui connaissent la loi ne la pratiquent pas vraiment. Ils font semblant, et il y a aussi les problèmes de l'impunité qui persistent, et nous devons mener les plaidoyers en direction de nos autorités politico-administratives pour qu'ensemble nous puissions nous rendre compte des méfaits des harcèlements sexuels dans les milieux professionnels. Peut-être ceux qui sont auteurs de ces actes ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de perdre des éléments importants qui peuvent produire du travail comme il se doit, et ça contribue à la chute toute douce de notre pays, au lieu que cela puisse permettre les décollages dans un Congo centenaire. Et nous avons encore comme stratégie la formation et l'information de la femme elle-même pour qu'elle puisse avoir des attitudes et qu'elle puisse étudier les comportements de son patron, si c'est dans les milieux de travail, afin de dénoncer à temps pour que cela ne puisse pas arriver à l'harcèlement, parce que nous nous sommes dit dans les constats faits ensemble dans le cadre de notre activité que nous menons ici à l'Équateur, Nord et Sud, nous nous sommes dit que quand nous arrivons devant les juridictions, souvent nous rentrons sans satisfaction et même si nous portons cela au niveau des instances médicales pour l'accompagnement psychologique, il y a des problèmes de santé mentale qui se posent. Souvent, nous sommes très très limités. Autant nous focaliser maintenant dans la prévention.
Oui.
Et nous avons produit un plan de prévention là, par exemple des systèmes d'alerte, d'éveil et d'alerte précoce dans les cadres des violences sexuelles. Nous avons étudié les mécanismes. Et nous allons rendre public notre rapport dès que nous serons à Kinshasa d'ici les 24 pour pouvoir maintenant inviter les activistes de droits humains à se focaliser plus dans la prévention des violences que de laisser les faits se réaliser, surtout s'il y a moyen d'éviter certaines choses. Et je crois que nous pouvons ensemble stopper que cela n'arrive au lieu de laisser que cela arrive et nous n'avons pas vraiment de solutions.
Voilà.
Les constats ont fait état des jugements qui sont rendus à compte-gouttes et les ceux qui étaient arrêtés, il y a d'autres qui se sont évadés, il y a bref, il y a pas mal de choses et aujourd'hui ça fait depuis 2006 que cette loi est publiée
mais
et promulguée,
pas...
mais les effets escomptés ne suivent pas et les nombres des cas sont minimes par rapport à la justice, par rapport aux jugements rendus, par rapport aux condamnations, par rapport aux conditions carcérales, tout ça. Et voilà, nous avons des sérieux problèmes et surtout un vrai problème d'accompagnement psychosocial des victimes qui se pose parce qu'une femme victime d'harcèlement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est malade mentalement. Voilà.
Madame Joséphine Galola, elle est coordinatrice du réseau Action Femmes.
Le plein d'énergie, c'est dans Total Énergie. Pendant 58 minutes, faites la ronde de tout ce qui concerne la jeunesse du pays et d'ailleurs. On se retrouve donc à partir de 15h du lundi au vendredi. Je suis Pamela Mounazo et je serai de la partie.
Christian Longomba nous appelle depuis Mbandaka. Il a une question. Bonjour.
Oui, je voudrais demander à madame qui vient de dire que les femmes sont souvent... tenter pour les violences sexuelles. Mais ma question est celle-ci. Que faut-il faire pour sensibiliser les femmes qui elles-mêmes vont vers le professeur pour leur tenter?
Merci pour la question. Madame Joséphine.
Ok, je vous remercie.
Que faut-il faire pour
sensibiliser toutes ces jeunes filles elles-mêmes qui vont se livrer auprès des professeurs, peut-être pour obtenir des points et autres faveurs?
Disons que les filles qui souffrent en holocauste pour obtenir des points, elles existent, c'est vrai, mais les professeurs qui sont censés connaître la loi, qui sont censés véhiculer des valeurs, doivent aider ces filles à ne pas souffrir. C'est un travail qui concerne tout le monde. Les professeurs, nous les avons intégrés dans notre programme avec l'UNIFEM, le programme de la mobilisation communautaire dans la prévention des violences à l'égard de la femme et des VIH/SIDA.
Oui.
Au niveau des Guémena, nous avons intégré les professeurs. Au niveau de l'Équateur Sud, à Mbandaka, nous avons aussi intégré les professeurs. Je crois qu'ils doivent user de leur éducation, des valeurs qu'ils peuvent conserver encore, pour aider ces filles qui tentent de soudoyer, d'exciter les professeurs à corriger leur comportement.
Voilà, madame Joséphine.
Parce qu'ils ont entre autres comme devoir d'enseigner, d'aider et de former les futurs cadres de ces pays.
Joséphine Ngalula, pour terminer, à qui s'adresser lorsqu'on est, on est victime d'un harcèlement? Il faut en parler à
on
son mari, en parler aux amis.
Directement chez l'OPJ.
Oui.
À la police, on peut s'adresser dans des centres d'accompagnement psychosocial, des cliniques juridiques, des ONG des droits de l'homme. On peut s'adresser directement à la justice.
Voilà, directement à la justice. Et quelles peuvent être les sanctions pour une personne qui est à l'origine, à la base d'un harcèlement sexuel? Quelles peuvent être les sanctions qui lui seront réservées?
Disons, la personne victime, disons, auteur des harcèlements sexuels sera punie de servitude pénale de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Voilà un peu les amendes ou bien la sanction qui est prévue pour l'auteur de l'harcèlement sexuel, et tout le monde doit faire attention pour ne pas tomber dans ces cas. Mieux vaut prévenir que guérir.
Voilà, Joséphine Galoula, coordinatrice du réseau Action Femme, RAF. Vous intervenez à partir du Mbandaka. Nous vous disons merci et bon début de semaine.
Merci, monsieur les journalistes, pour votre contribution à la promotion de droits dans la lutte contre les violences sexuelles. Merci.